Je crois que le monde se transforme, n'est-ce pas? Il se transforme parce que nous sommes dans un monde pluriculturel. Laissez-moi vous relater la remarque d'un industriel qui est le fondateur des produits Bonduelle, des petits pois et d'autres. Et cet homme me disait qu'il regrettait que ses enfants n'aient plus le sens du territoire. Il me disait, j'ai un fils à Londres, j'ai un autre fils à Singapour, j'ai un fils à Pékin, et plus personne n'est en France. Ceci nous interpelle tous, c'est que nous sommes tous amenés à avoir des enfants qui sont dans un autre pays, dans un autre monde, qui sont peut-être mariés à d'autres origines. Donc ces gens sont concernés par tous les autres pays. Je voudrais dire un autre exemple. J'ai dirigé une entreprise avec des chercheurs. Ces chercheurs, je les ai trouvés parce qu'ils étaient les meilleurs spécialistes du système nerveux central ou de la cardiologie dans d'autres, et qu'ils exerçaient dans d'autres pays. Je vais même plus loin. Les chercheurs que j'ai recrutés suivaient la progression de leurs travaux au jour le jour, grâce aux télécommunications, n'est-ce pas? Ils avaient le besoin d'être en communication permanente pour savoir s'ils n'avaient pas dérapé dans leurs travaux, s'ils restaient en avance ou s'ils ne devaient pas abandonner ce sujet de recherche pour un autre. Et nous leur demandions, en tant que dirigeants, d'être en permanence reliés aux autres coins du monde pour que l'entreprise existât, pour que leur travail... Donc ils étaient abstraitement, virtuellement, obligés de faire partie de réseaux, n'est-ce pas, internationaux, et ils ne pouvaient pas rester dans sur leur seul territoire, dans leur seule entreprise.
Es gribētu sacīt, ka pasaule mainās un mēs kļūstam aizvien daudz multikulturālāki. Es vēlos minēt tikai divus piemērus. Man ir bija viena saruna ar vienu rūpnieku, kurš ražo visiem labi zināmās Bonduelle produkciju kārbiņās, zaļie zirnīši. Un man sacīja, ka viņš nožēlo, ka viņa bērni vairs nejūt saikni ar savu teritoriju. Viens dēls ir Londonā, otrs ir Pekinā, trešais ir Singapūrā un Francijā nav neviens no viņa bērniem. Un vispār kopumā mūsu bērni ir citā valstī, citā pasaulē, iespējams precējušies ar citu kultūru pārstāvjiem. Un mums līdz ar to izveidojas saikne ar ļoti daudzām kultūrām un ar visu pasauli. Mana personīgā pieredze ir vadot pētniecības uzņēmumu. Pētnieki, kuri strādā šajā uzņēmumā, bija no dažādām valstīm, dažādām zemēm, un viņi uzturēja ikdienas saikni, pateicoties arī komunikāciju tehnoloģijām ar saviem kolēģiem visā pasaulē. Tas viņiem ir absolūti nepieciešams, un tā bija nepieciešamība un prasība, iekšēja nepieciešamība saprast, vai viņi ir uz pareizā ceļa, un šī saikne ar kolēģiem viņiem palīdzēja to saprast, šī pastāvīgā saikne. Un es pat arī viņiem lūdzu un prasīju, lai viņi būtu pastāvīgā saiknē ar visu pasauli. Un abstrakti runājot, principā viņi veidoja tādu kā starptautisku tīklu, un viņi neatradās tikai vienā teritorijā.
Labi, un mēs varētu noslēgt šo sarunas daļu un pievērsties diskusijā, bet pirms mēs to darām, vēl pēdējais gribēju Bernārām pajautāt. Bernārs jau minēja savu draugu, gleznotāju Marianu, un mēs pirms šīs sarunas lūdzām, Bernāra, tu teici, ka tu vēlētos īpaši veltīt vārdus viņam, un jā, noslēgt šo pirmo daļu par Marianu.
Avant de conclure cette première partie de notre discussion et passer aux commentaires, aux questions, Bernard, tu voulais dédier absolument une partie de cette discussion à ton ami Marian. Est-ce que tu pourrais nous dire pourquoi?
Oui, Marian a donc vécu 5 ans dans des camps de concentration polonais. 12 ans, 17 ans. C'est quelqu'un qui a compris que la société dans laquelle nous vivions, dans les années 70, c'était déjà une société camp. Pourquoi ? Parce que il voyait que chaque individu portait le costume, l'uniforme qui lui était dicté par la société. Il était juge ou il était gardien de musée. Tous ces gens-là avaient un rôle dans la société. Et ils étaient traités dans cette société plus ou moins totalitairement. Certaines de ces reproductions que vous avez en face vous montrent l'homme Ku Klux Klan. Plus que le Ku Klux Klan, vous allez voir que cet homme est aussi habillé par la religion, en l'occurrence juive, et qu'entre le Ku Klux Klan et la religion, il y avait quelques parentés. Vous allez voir aussi que dans ce que j'appelle, que j'ai appelé dès les années 77, je dirais le manège de Marian, il y avait partout des Napoléons. Vous avez donc des dictateurs en germe, ou des dictateurs tellement torsadés de leurs entrailles qu'ils n'étaient plus, celui qu'on connaissait. La société avait fabriqué un autre, en l'occurrence un Napoléon Ubu un Napoléon Ubu empereur grotesque.
Jā, Marians, kā jau es minēju iepriekš, bija pavadījis 5 gadus Auschwitz nometnē no 12 līdz 17 gadiem, un tad, kad viņš iznāca ārā no šīs nometnes, viņš redzēja to, ka sabiedrība funkcionēja, tie bija 70. gadi, principā funkcionēja plus mīnus tā, kā funkcionēja nometne. Kāpēc? Katram indivīdam bija īpašs kostīms, kurā to bija ieģērbusi sabiedrība, viņš bija vai nu tiesnesis vai muzeja uzraugs, un katram bija piešķirta sava loma sabiedrībā. Un pret visiem attieksme bija vairāk vai mazāk totalitāra. Šajās glaznās mēs arī redzam, ka cilvēks attēlotu cilvēku kā kukluks klāna dalībnieku. Mēs redzam arī cilvēku, kurš ir ietērts reliģiskā tērpā, reliģiskās drēbēs, un mēs redzam zinām līdzības ap šīm diviem tēliem, kukluks klāna tērps un reliģiskais tērps. Un es šo individu parādi, ja tā var teikt, dēvēju par Marijana karuseli, kurā griežas visi šie personāži. Tur mēs arī redzam Napoleona tēlu, piemēram, ko viņš vēlējās pateikt, runāt par topošajiem diktatoriem. Daži no šiem diktatoriem ir tik ļoti deformēti līdz pat nepazīšanai, ka drīzāk viņi atgādina pa pusē Napoleona, pa pusē karalī bija. Viņi pilnīgi līdz groteskai pārvērsti. Un šis konkrētais laikam ir tas kukluks klāna cilvēks, ko... Nē, šis ir reliģijas drēbēs, tas ir labi reģižiūs, atvainos. Šis ir reliģijas drēbēs iespīlētais, kostīmā iespīlētais cilvēks.
Alors, pourquoi je voulais parler de Marian? C'est parce qu'il vient d'un camp. S'est retrouvé dans une société camp et il nous a annoncé que nous allions revivre des camps. Alors, c'était une alerte retentissante et qui nous invite à creuser ce thème justement pour faire comme je pense nous l'avons fait, faire que la table remplaça le camp.
Kāpēc tieši vēlējos runāt par Marianu? Varbūt atkārtošos, viņš piedzīvoja nometni un viņš no tās tika ārā, bet atklāja, ka sabiedrība ir saglabājusi, ja sabiedrībā ir redzamas nometnes iezīmes, un Marians brīdināja, ka mēs atkal varam piedzīvot nometnes, varam piedzīvot to, ko viņš piedzīvoja. Manuprāt, tas aicina mūsu domāt, tas aicina katrā ziņā mani domāt par to, lai šīs sabiedrības nometnes vietā būtu drīzāk sabiedrība liels galds, pie kura mēs visi varam būt klāt.
J'ajoute que c'est à la fin de l'année dernière, au milieu de l'année dernière, que Marian s'est trouvé placé en bonne position à Pompidou, puisque 8 œuvres de Marian ont été acquises l'année dernière.
Esmu priecīgs, ka pagājušā gada nogalē 8 Mariana darbi ieguva sev pienākošos vietu arī Pompidou mākslas centrā Francijā.
Paldies liels, Bernāri, par šīm domām. Mēs to interesanti apgājām tādu kā apļu veidu kompozīcija mūsu sarunā sākām ar galdu un sākām ar galdu un beidzām ar galdu ar šo galdu, kur, pie kura mums visiem vajadzētu būt. Un es atklāšu nākamo sarunas posmu, mums ir atlikusi pusstunda nepilna. Droši jūs jautājumi, komentāri, iebildumi. Pēdējās ir atvērts, mēs visi esam atvērti sarunā.
Varbūt mūsu latviešu mākslinieci, būtam kādu 10-15 gadus atpakaļ Parīzē ilgi dzīvojušā nekas Zeluču, viņa pateica, ka franču māksla nekad vairs nesasniegs to augsto līmeni, kura viņai bija. Nu, vai tas nav saistībā, jāsaka, ar nepārtraukto marakāņu, alžīriešu, bēgļu, kā saka, iebraukšana tajā Parīzē. Vai tas ir stimulējis attīstību, vai būtībā šo franču nacionālās, teiksim, kultūras to bāzi, vai tas nav mazliet pārādījis?
Ja un artiste letonne, Zelčes,
Zeile.
Il y a une artiste lettonne, Madame Zeile, qui disait que, selon elle, l'art français ne va jamais atteindre les niveaux qu'il avait avant. Et ma question, est-ce que l'arrivée des Marocains, des Algériens, des réfugiés, est-ce que c'était un stimulus pour le développement ou tout le contraire? Ça a détruit, ça a décortiqué en quelque sorte les bases nationales, les fondations nationales françaises, de l'art français.
C'est une très bonne question. Ma réponse, vous le comprenez, je veux dire, c'est non. Je pense que l'arrivée des migrants en France a fait beaucoup progresser les choses et a fait. Si vous regardez les philosophes universitaires de 2014, plus de 50% sont des Maghrébins. Plus de 50%. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on a eu besoin, je dirais, de relire. Je veux dire, comme au XIIe ou XIVe siècle, je veux dire, des philosophes musulmans ont traduit les auteurs grecs. Nous avons besoin de relire ce que nous faisons avec d'autres yeux. Et donc, je suis certain que c'est un progrès. Si vous regardez les études, les mathématiques, vous avez un pourcentage plus faible, certainement, de gens étrangers, mais vous avez une proportion significative d'étrangers. Donc là aussi, ça nous apporte. Je crois que nous revivons, pour répondre à votre question, monsieur, nous revivons, je veux dire, cette période où, je dirais, les juifs d'Espagne rencontraient les Arabes. Et cette période, sur le plan scientifique, était formidable. Alors, je citerai un écrivain allemand qui a publié récemment un article. Comment s'appelle-t-elle? Oui, Caroline Emke, qui disait que finalement tout dépend de la qualité de notre ouverture. Et c'est ça qui est important. Je dois le dire moi-même, je veux dire, quand j'étais étudiant, il n'y avait pas ces maghrébins dont vous parlez dans les universités à un grade d'enseignant. J'ai dû revoir ma pensée, je dirais, et j'ai dû admettre, je dirais, que mon pays avait fait un progrès majeur là-dessus. Alors, vous me direz, il y a des contre-exemples dans ce que je dis. Mais bien sûr qu'il y a des contre-exemples. Mais ces contre-exemples sont essentiellement dus au fait que nous n'avons pas suffisamment réfléchi, suffisamment préparé le terrain dans lequel nous sommes entrés. Et c'est cet effort-là auquel je crois.
Paldies par jūsu jautājumu. Nē, es domāju, ka viņi nav noārdījuši Francijas mākslas nacionālos pamatus. Manā skatījumā šie migranti, kas ieceļojuši Francijā, ir uzskatāmi par devuši veicinājuši progresu. Piemēram, 2014. Gadā universitātes līmenī mēs varam redzēt, ka vairāk kā puse filozofu ir Magreba izcelsmes cilvēki. Tas nozīmē, ka iespējams ir šobrīd tāda pati vajadzība pārlasīt senos darbus, kā tas bija 12. vai 14. Gadsimtā, kad musulmaņu filozofi tulkoja grieķu darbus. Mums tas ir vajadzīgs paskatīties. Šie cilvēki paskatās uz mūsu kopīgo kultūras mantojumu ar citām acīm, no cita skatu punkta. Un tas manā skatījumā ir progress. Es domāju, ka mēs šobrīd piedzīvojam to periodu, kas bija savulaik, kad ebreji bija spiesti pamest Spāniju, tika izdzīti no Spānijas un satikās ar arābiem, un zinātniskā plāksnē tas deva brīnišķīgus rezultātus. Es lasīju arī nesen vienu vācu žurnālistu rakstu par migrāciju, kura raksta, ka būtībā ļoti svarīgi ir, ka viss ir atkarīgs no mūsu pašas, no uzņemošās, uzņemošo cilvēku atvērtības kvalitātes. Un tas attiec arī uz manu pašu. Tad, kad es studēju universitātē, tad tajā laikā nebija vispār pasniedzēji no Magreba reģiona, un arī man nācās pārskatīt dažu no savām domām un uzskatiem. Un, protams, jūs sacīsiet, ka ir arī negatīvi piemēri, bet manā skatījumā šie negatīvie piemēri, ja neveiksmes, ir tāpēc, ka mēs neesam pietiekami pārdomājuši un domājuši par to, ko nozīmē uzņemt citu cilvēku, ko nozīmē uzņemt migrantu, vai tas būtu no Magreba reģiona vai no cita reģiona.
Je voudrais ajouter quelque chose à ce que j'ai dit.
Es vēlos mazliet papildināt savu atbildi.
Ce ne sont pas ni les Maghrébins ni les autres migrants qui font perdre à la France sa culture, c'est tout simplement la globalisation. La globalisation nous oblige à avoir le même costume dont parlait Marian. Je veux dire, à être dans le même moule que ça. Ce n'est pas, je veux dire, ce qui ferait perdre, ce qui ferait perdre à la Lettonie sa migration, ça, je dirais, son identité, ça serait, je dirais, certainement la globalisation. Ça ne serait pas l'arrivée des immigrés. Ça m'apparaît essentiel. Et je dirais que l'Europe est en perte d'identité, monsieur. Non pas à cause des migrations, mais certainement à cause, je veux dire, de la globalisation. Les traités qui vont peut-être être signés ou peut-être pas entre la France ou entre l'Europe et les États-Unis, je dirais, sont sont l'objet de grandes réflexions et de grands soucis de notre part, parce que nous allons perdre vraisemblablement notre identité. C'est ça qui est essentiel.
Es vēlējos mazliet papildināt savu atbildi. Es uzskatu, ka ne jau migranti no Magreba vai citiem reģioniem būs tie vai ir tie, kas liek Francijai zaudēt savu kultūru, bet tā ir globalizācija, kas liek Francijai zaudēt savu kultūru un identitāti. Tā globalizācija mūs iespīlē, visus cenšas iespīlēt vienādos kostīmos visā pasaulē, uztaisīt visu pēc vienas formas. Un es arī domāju, ka ja kaut kas liktu Latvijai zaudēt identitāti, tad tā noteikti būtu, tā vainīgā noteikti būtu globalizācija un ne jau migranti vai bēgi no viena vai otra pasaules reģiona. Un šeit es gribētu teikt, ka runa ir ne tikai par Franciju, ne tikai par Latviju, bet kopumā par Eiropu, kura zaudē savu identitāti un kultūru ne migrantu dēļ, bet gan globalizācijas dēļ. Un šajā sakarā es domāju, ka viens vai otrs līgums, ko iespējams Eiropa, iespējams, mēs to vēl nezinām, Eiropa parakstīs ar Ameriku. Katrā ziņā ir kaut kas, kas ir lielu pārdomu vērts un kas saistās ar bažām, ar manas minētajām bažām, ka mēs varētu līdz ar to, mēs Eiropa varētu zaudēt savu identitāti un kultūru.
Bet netiek runa par to, ko mēs esam savā dzīvē izvēlējušies. Ir brīnišķīgi ideja ēst un nedzert, un ir cilvēkas dzīvotā, bet ja mēs esam izvēlējušies dzīvē ēst un dzert, tad mēs esam izvēlējušies to vidu, kurā dzīvot. Un par to neviens netiek runāts. Par mūsu personīgu izvēlu, kad mēs nākam šajā pasaulē. Jūs saprotat?
Mais c'est nous-mêmes qui ont choisi le milieu dans lequel nous vivons. C'est notre propre choix et personne n'en parle.
J'ai rien à dire, c'est vrai, c'est votre choix.
Jā, tā ir, katra cilvēka personīgā izvēle, tur nav neko piebilst, neatmet.
Mais par exemple, si j'aurais une fois les petits enfants et je vais montrer les cantres d'ici, Roswald, Kazakh, et j'ai dit que la patrie c'est quelque chose de divine, vous pensez que je suis stupide?
J'ai pas dit ça, madame, non, je me permettrai pas. Non, je crois que
Jautājums bija, ja es saviem mazbērniem rādu latviešu gleznotājus Kazāku, Grosvaldu un citus un saku, ka viņiem, ka dzimteni ir kaut kas... Tēvija, jā, atvainojiet, tēvija ir kaut kas smuļķīgs vai...
Nē, svēts, divīna.
Nu,
šis... Tēvija ir kaut kas svēts, vai es kļūdos, sako tā, un sadēk mums atbild, nē.
Nu, j'ai essayé de dire ce soir, avec votre autorisation, mais sans contrainte. J'ai essayé de dire des choses concrètes. J'ai essayé de vous dire qu'on ne dirige plus une entreprise comme on la dirigeait du temps de Kazakh. Je pense que l'éducation que vous donnez à vos enfants n'est plus la même que celle de cette période-là. Vous devez enseigner à vos enfants les sources des progrès, y compris informatiques, n'est-ce pas, auxquels vos enfants sont habitués. Peut-être à tort, mais peut-être à raison. Je suis sûr que vous interdisez à vos petits-enfants de regarder trop longtemps la télévision ou de jouer trop avec l'ordinateur. Et ces instruments-là ne sont pas laitons, madame. Ils sont en partie laitons seulement.
D'accord.
Vous êtes bien obligé d'ouvrir à vos enfants, je veux dire, d'autres cieux. Si vous êtes dirigeant d'entreprise, si vous êtes mère de famille, dans tous les domaines, vous êtes obligé de ça. Alors, c'est pire si vous êtes entre les mains de la globalisation. Mais, comme chacun sait, vous ne pouvez pas fermer vos frontières, n'est-ce pas ? Et vous ne pouvez pas fermer les esprits. Donc, il faut réfléchir autrement. Et réfléchir autrement, c'est certainement ne pas avoir peur du migrant. Ne pas avoir peur du migrant. Mais vous y préparez, ça demande beaucoup de choses, je dirais. Cette femme que je citais tout à l'heure, écrivain allemand, disait que il avait bien fallu à l'Allemagne de l'Ouest de se préparer à l'arrivée des gens d'Allemagne de l'Est. Il fallait bien changer de logement, changer l'éducation, peut-être avec moins d'arrogance, à ça, certainement, et peut-être revenir à quelque chose de différent, n'est-ce pas ? Je pense que l'ouverture au monde, elle préside des mêmes principes que, je veux dire, l'ouverture et la réunification allemande. C'est la même chose. Vous devez, il faut regarder. Je veux dire, moi, mon pays, et je parle que de ça, mon pays ne voit pas les problèmes, je dirais, des bas salaires, je veux dire, qui sont attribués, je veux dire, à des étrangers, mais qui sont supérieurs, déjà supérieurs, à ceux qui sont accordés aux Français. On est bien obligé de réviser nos problèmes. Quand la chancelière allemande va se retrouver avec des gens qui n'accepteront plus le salaire de 400 euros minimum, va bien être obligé de réviser sa copie. Ça paraît évident. Nous sommes contraints de revoir ce que nous faisons. Hein, c'est pas parce qu'on va s'opposer à l'entrée des migrants je veux dire qu'on aura résolu nos problèmes vis-à-vis des anciens, vis-à-vis des enseignants dont on connaît l'âge et les salaires. Non, ça, et ça je voudrais bien qu'on retienne de ce que je dis, c'est que ça nous oblige de nous revoir totalement, de nous remettre en cause. Et de nous remettre en cause dans ce passage de la notion de camp à la notion d'accueil. Voilà, c'est ce que je veux dire. C'est que le cœur, dans la nouvelle société, aura plus d'importance que l'esprit. Ça, il faut se rendre compte. Là, ça m'apparaît fondamental. Mais il y a des risques et il faut véritablement remettre en cause, je dirais, ce que nous avons pu voir et faire.
Es mēģināšu pārtulkot, neko neizlaižot. Jā, es mēģināju minēt konkrētas lietas, konkrētas piemēras, kas, protams, saistās ar manu pieredzi. Es gribētu sacīt, ka šodien mēs vairs nevadām uzņēmumu tā, kā tas notika jūs minētā mākslinieka kazāka laikos. Izglītība, ko bauda šodien jūsu mazbērni, mūsu bērnu mazbērni, arī nav tā, kas kazāka laikos. Mums ir jāmāc mazbērniem senči, vēsture, bet tāpat laikā arī progress, tā skaitā informācija tehnoloģijas. Kaut arī esmu pārliecināta, ka jūs saviem mazbērniem neļaujiet pārāk daudz skatīties televizoru un spēlēties ar, darboties ar datoru, pie datora ekrāna. Jā, mums ir jāatver saviem bērniem citi horizonti, citas debesis. Mēs esam šajā globalizācijā, un tas robežs, mēs nevaram aiztaisīt ciet, bet es uzskatu, ka mēs varam domāt citādāk. Mēs varam mainīt savu domāšanu tā vietā, lai, piemēram, baidītos no migranta, bet drīzāk būt gataviem sagatavoties šim fenomenam. Atkal minēju šo vācu žurnālistu, kur rakstīja par Ķelnes notikumiem migrācijas tēmu. Viņa rakstīja, ka arī Rietumvācijai vajadzēja sagatavoties, lai uzņemt austrumvāciešus. Tas saistījās gan ar mājokļu problemātiku, gan ar izglītības problemātiku un nenoliedzami rietumvāciešiem vajadzēja kļūt mazliet mazāk arogantiem pret austrumvāciešiem. Es gribētu runāt par atvērtību pasaulē, kas ir ļoti svarīga un kas, ko vācieši noteikti piedzīvoja līdz ar Vācijas apvienošanos. Es varu runāt, protams, tikai par savu valstu, bet to es arī pārsvarā runāju par Franciju. Jāteic, ka Francija neredz problēmas, un pagaidām neredz tādas problēmas kā zemās algas, ka, piemēram, ir ārzemnieki, kur saņem lielākas algas nekā francūši, tāpēc arī Francijā būs nepieciešama domāšanas maiņa. Šķiet, ka arī Vācijā būs arī jāpārskata lietas tad, kad vācieši vairs nepieņems tos saucamos mini darbus, jeb darbus, kur ir alga ir 400 eiro mēnesī, tikai arī tur būs jāmaina domāšana. Es uzskatu, ka viss ir jāpārskata mūsu sabiedrībā. Un ne jau tā pretošanās migrācijai atrisinās tās problēmas, piemēram, kas saistās ar zemajām pensijām vai nepietiekamo skolotāju atalgojumu. Tas ir sabiedrības modelis, kas ir jāpārskata. Un sarunas pirmajā daļā es jau minēju, ka es gribētu, lai sabiedrība virzītos no sabiedrības nometnes modeļu uz sabiedrības uz uzņemošas sabiedrības, atvērtas sabiedrības modeli. Un es noslēdzot gribētu teikt, ka noslēdzot savu atbildi, ka, manuprāt, sirds jaunajā pasaulē būs svarīgāka par prātu.
Un, diemžēl, mūsu šīs atcerīgās notas ir jānoslēdz, jo laiks ir izticējis. Dievs, paldies, Bernāri! Paldies, Kristīn, par to, ko jums sirsnīgs. Paldies visiem, kas šeit bijāt, īpaši tālsirdniekiem, kas ir braukuši tālu ceļu. Un vēl ciemiņiem no, ne tikai no Rīgas, sirsnīgs paldies. Bernārs ir šeit, lai aprunāties arī aci pret aci. Lai jums brīnišķīgs vakars. Paldies jums. Paldies.